Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque la dernière fois où il est passé, vous avez eu beaucoup de réactions. C'est qui cet homme-là? Qui est Joey Aubé? Eh bien, c'est le gars de Génération Ambition qui est devant moi pour les prochaines minutes. On va parler du sujet d'actualité, bien entendu, puis peut-être d'autres sujets sur le fly, comme à notre habitude dans Mars au soir. Joey Aubé, salut!
Salut Yann, merci de l'invitation.
Bien, ça fait plaisir, puis c'est tout à ton... Tout ça t'appartient parce que t'es venu la première fois, les auditeurs ont apprécié. Pis...
J'ai pas vu les commentaires passer, je me suis dit...
Ah ben ça, j'y monte pas toujours.
Non, c'est ça. Ça a-tu bien été? Ils m'ont-tu haï? Ils m'ont-tu aimé? Je sais
non.
pas.
Non, non, mais quand c'est des bons commentaires sur mes invités, puis moi, ils disent rien sur moi, je tranchais jamais les bons commentaires à mes invités. J'ai un peu de jalousie, j'étais un gars de
main. OK, pas de problème.
Je tire toujours...
C'est ton show, c'est toi qui décides.
Je tire toujours la couverte de mon bord. Très content de t'avoir avec moi, mon vieux, pour les prochaines 60 minutes. Génération Ambition. Bon, on en a parlé la dernière fois. Peut-être juste nous remettre un peu dans le contexte. Pourquoi avoir eu idée de partir Génération Ambition? Puis, tu fais-tu partie d'une génération peut-être oubliée par les politiciens?
Un peu. Ben pour répéter aux auditeurs, c'est quoi Génération Ambition? C'est un mouvement jeunesse transpartisan. Je dis bien mouvement et non pas elle jeunesse. Là, parce que, regarde, je le dis publiquement, c'est pas un secret. Je milite activement pour le Parti conservateur du Québec. J'ai ma carte de membre. Je connais très bien Éric Duhaime et tout ça. Et je continue de militer pour ce parti-là. Par contre, on voulait vraiment beaucoup de jeunes hommes et femmes conservateurs des jeunes générations. Je te dirais, mettons entre 14 et début trentaine, je te dirais, mettons, maximum début fin vingtaine, début trentaine, si on dit « Ouais, on aimerait ça avoir finalement une voix », parce qu'on parle souvent des jeunes, « Ah, les jeunes sont éco-anxieux aujourd'hui, les jeunes sont aussi, les jeunes, on pense que la planète va exploser dans 3 ans », puis c'est tout le temps « Tous les jeunes pensent si », et c'est majoritairement dans les médias, pour ce qui est... on voit majoritairement, je dirais, les jeunes majoritairement à gauche, parce que c'est souvent ceux-là les seuls qu'on voit les plus criants sur les réseaux sociaux, ou du moins, certains diraient, les autres jeunes travaillent pendant ce temps-là. Mais le but, c'était donner une voix à ces gens-là.
Ouais, et il y a pas quelqu'un qui avait dit « C'est bien correct d'être communiste à 20 ans, mais à 40 ans, c'est un problème. »
Oh, ouais, c'était Churchill, je pense, qu'il avait dit ça. Non, absolument. Puis le but de vouloir faire un mouvement transpartisan, si je sais, parce que j'en ai connu, je suis un ancien caquiste, ouais, c'est ça, je m'étais fait un peu connaître durant la pandémie.
Enfin
là-dessus.
Un défaut!
Ouais, c'est ça, je suis pas parfait. Non, c'est ça. Puis je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils ont les mêmes idées que moi ou qui se ressemblent beaucoup, qui sont dans les autres conventions politiques, que ce soit à la CAQ, que ce soit chez les libéraux, malgré que je m'en encore qu'est-ce qu'ils font là. Mais puis, étrangement, à date, on est plus d'une trentaine. On a récemment créé notre premier exécutif par intérim, en fait, là, avec les gens qu'on a trouvés. On commence tranquillement à créer notre squelette. On a nos réseaux sociaux en place partout, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, name it. On fait des clips, des shorts pour inciter les gens à, justement, à plus savoir qu'est-ce qui sont nos idées. Puis beaucoup de gens qui nous ont rejoints nous ont dit... Hey, moi, j'ai pas la dernière élection, celle de 2018, beaucoup de gens nous ont dit on a voté QS parce qu'on nous a dit qu'on était de gauche puis que la gauche, c'était Québec solidaire.
Ouais, c'était avec toi, José, de la fameuse boussole électorale qui avait fourré tout le monde.
Hein? Ouais.
Quand ils ont commencé à partir ça, la boussole électorale, j'étais pas trop convaincu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, Yann, je pensais que j'étais, tu sais, je dis n'importe quoi, mais je pensais que j'étais Québec solidaire. Finalement, j'étais un libéral, tu sais, alors que je le savais pas.
Mais souvent, c'est sur un enjeu précis, tu sais. Ouais. Par exemple, comme puis regarde, c'est pas un secret non plus, je suis ouvertement gay. T'sais, autant qu'au niveau conservatisme fiscal puis l'État le moins possible dans ma vie, je suis 100% de ce bord-là, mais est-ce que je suis en faveur du mariage gay, bien évidemment. Mm-hmm. Je pense que c'est vraiment du pick and show, sous dépendant de certains dossiers, que par exemple, je connais des gens qui sont très conservateurs, peut-être un peu plus social, sauf par exemple la décriminalisation de toutes les drogues sont pour ça. Tu te dis, OK, il me semble que ça fit pas. Ben, des fois, t'sais, c'est ça peut pas être...
Mais on n'est pas obligé d'être juste à gauche ou juste à droite.
Mais non, moi, ce que j'aime... la joke que j'aime bien dire, c'est qu'on vit dans 50 nuances de gris sans vouloir faire de joke plate, mais c'est un peu ça, tu sais.
Mais ce que j'aime de votre mouvement, c'est que vous ouvrez la porte à tout le monde, des gens de gauche, des gens de droite, pour échanger. Tu sais, je pense que c'est ça qui va définir notre belle société peut-être plus tard, parce que trop souvent, les gens de droite sont ensemble, les gens de gauche sont ensemble, puis tout ce beau monde-là se parle pas, puis de temps en temps, ça se coltaille sur les réseaux sociaux. Le fait que toi, de ton côté, tu gardes, moi, là, j'ai milité pour le Parti conservateur du Québec. J'ai des idées peut-être un peu à droite au niveau de l'économie, mais pour le reste, je suis parlable. Puis des fois, je suis d'un bord, puis des fois, je suis de l'autre. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait miser, Joey.
Ah oui, absolument. Puis autant que, bien évidemment, le but de ce mouvement-là, c'était davantage de représenter la jeunesse, je te dirais, plus conservatrice au niveau économique, mais majoritairement aussi un peu le on est... un des points centrales, puis autant qu'on est en train encore de construire un peu, de mettre nos idées par écrit, puis on va avoir une consultation vraiment, parce que c'est pas juste moi qui décide de ça, ni ma co-porte-parole qui est pas ici aujourd'hui, mais Héloïse Coulombe, mais vraiment de dire, OK, pourquoi on représente notre mouvement et pourquoi? C'est quelle valeur qu'on met de l'avant? C'est qu'est-ce qu'on veut changer au Québec? Autant on n'est pas un parti politique, mais il faut quand même mettre sur papier ce qu'on représente. Et je pense qu'un des points, les points les plus importants, c'est vraiment remettre le fameux modèle, qui n'est pas vraiment un modèle, québécois en question. T'sais, le fameux État-providence, que, excusez-moi, il a peut-être marché au départ, mais malheureusement, il ne fonctionne plus du tout
peut-être
dans plein de domaines.
Ouais, peut-être cesser de se mentir à nous-mêmes.
Exactement. Puis en passant, le but de faire ça, c'est pas de vouloir faire du Québec bashing. Au contraire, souvent, on parle des gens qui sont de la droite économique. On dit « Ah, vous haïssez des ethno-masochistes, vous haïssez le Québec. » Au contraire, on les aime peut-être même encore plus en vouloir faire de galvauder mon ego plus que la majorité des gens parce qu'on voit le potentiel des Québécois. À quel point... Tu sais, moi, je comparais tout le temps ça. Je prends une industrie en particulier, l'industrie de la restauration. Vous le savez, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, vous le savez à quel point la bureaucratie et la quantité de permis que ça vous prend par le provincial juste pour mettre pignon sur rue votre restaurant, lire les normes environnementales, puis décider de ça. Puis autant, c'est une industrie qui fonctionne extrêmement bien. On voit dans la ville de Québec, puis partout ailleurs en province, on a des bons restaurateurs qui nous donnent des produits de qualité. Mais on s'entend-tu qu'au Québec, il ne faut pas se le cacher, on n'est pas dans une province ni avec un État qui valorise beaucoup l'entrepreneuriat. C'est un peu culturel aussi. C'est notre héritage catholique. L'argent est sale. Puis, tu sais, faut pas voir le gars qui est. Faut cacher notre Rolls-Royce dans notre cour parce que ça pourrait faire jaloux les voisins. Mais.
Ben, je connais pas grand restaurateur qui ont des Rolls-Royce.
Non, mais je parle en général. Si on met les restaurateurs de côté. Mais tout ça pour dire que c'est ça.
Parce que les restaurateurs, c'est à peu près 3% la marge de profit.
Mais mon point, c'est qu'en gros, c'est spécial. C'est à quel point on est bon. C'est que l'État nous a un peu endurcis à être encore plus que la moyenne parce que on est, entre guillemets, excusez-moi, mais une terre aride pour, en tout cas en termes de valorisation de l'entrepreneuriat et de la productivité de l'entreprise privée. Ouais. Puis malgré tout, on a quand même des entreprises comme des restaurateurs, mais là, je prends ça en exemple, il y a plein d'autres, dans plein d'autres industries qui réussissent quand même à faire des profits puis à prospérer. Je me dis, c'est comme si, tu sais, un restaurateur du Texas en viendrait ici, il y aurait de la misère en calvaire parce que lui, il vient d'une place où le gouvernement est quasiment jamais dans ses pattes. Tandis que nous autres, on a appris à quand même être productif à travers toutes les cristis de bâtons qu'on nous met dans les roues. Imagine si on les enlèverait, quel point on serait pas les meilleurs, ça a boule, ou du moins en Amérique du Nord. L'État nous a auto-endurcis dans plein de domaines, puis si on ouvrait finalement le barrage, puis l'eau s'écoulerait, my God, on sky is the limit, comme dirait l'autre.
Oui, puis on donne pas assez d'importance aux propriétaires de PME, hommes comme femmes, alors que c'est le poumon du Québec, les PME. Puis, tu sais, souvent, j'entendais l'expression paradis fiscal, tu sais, mais si des paradis fiscaux existent, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux qui existent. Puis, je pense qu'on est dans un enfer fiscal ici au Québec. Puis ça, c'est sans compter toute la paperasserie, puis les choses que tu dois faire, que tu n'as pas nécessairement besoin de faire ailleurs. Les entrepreneurs sont faits forts et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mm. Des gens qui disent « Hey, il me semble que je reconnais cette voie-là », ben oui, tu es de Génération Ambition, c'est un mouvement que tu as parti avec d'autres personnes comme toi, mais tu es aussi co-animateur du podcast Yann et Franck, je devrais dire l'excellent podcast Yann et Franck.
Yeah, avec Yann Sénéchal.
Tu es avec eux autres depuis combien de temps?
Depuis septembre 2023. En fait, c'est ça, je suis un des... C'est sûr que c'est les principales deux intéressés, mais évidemment, c'est Yann Sénéchal de monconseiller.net, puis Franck, le de misère, a.k.a. François Fournier pour les intimes.
Ouais. Ils t'ont accepté dans la secte?
Oui, ben j'ai commencé là comme simple chroniqueur une fois par semaine dans une section de la chaîne de Yann et Frank qui s'appelle En toute liberté, que c'est rendu moi qui host à cette heure avec plein d'intervenants par semaine. Je parle avec Karim Elayoubi, docteur Karim Elayoubi en santé, Jacinthe Varel, que vous voyez souvent, Gérald Filion,
ouais, qui fait son tour sur les ondes de boulevard.
Oui, de temps en temps aussi. Également, je parle à Luce Dano, qui est la mairesse de Wickham dans le coin du centre du Québec, qu'on parle d'enjeux municipaux, puis plein d'autres aussi, Pascal Derry, dans le coin de Verchères, qu'on parle de santé. Puis
Pascal qui a eu une certaine carrière en radio à Québec.
Oui, oui.
Pace. Je pense que c'était Pace, son nom d'artiste.
Oui, puis il parlait aussi du personnage d'André Arthur qui parlait du décortina. J'ai eu certains segments avec lui le vendredi live avec En toute liberté sur YouTube.
C'est un allumé, là, Pascal.
Oh, oui, vraiment. C'est un crinqué. C'est un gars qui ment, comme on dit, qui mord dans la vie.
C'est un original.
Ouais, un gars qui est rendu à Sainte-Julie avec son gym Spartan Fit, pour ceux qui connaissent le coin.
Donne-tu encore des cours de karaté?
Je sais pas, ma connaissance, mais je sais qu'il jette encore son gym. Il fait beaucoup de courses à obstacles de plus en plus pour les plus jeunes aussi. Il se déplace partout au Québec pour vraiment amener l'activité physique dans les écoles, dans les différents endroits, puis il s'implique partout, puis il s'en va en Californie deux fois par année. En tout cas, il arrête jamais, ce gars-là, puis je pense qu'il arrêtera jamais jusqu'à la fin de ses jours, mais c'est son style.
Ouais, moi, ce qui m'avait marqué, c'était un gars créatif. Absolument. Il était très particulier.
Gars de Québec d'origine, d'ailleurs, de Charlebourg.
C'était le fun de l'entendre à la radio. Donc, Joey Aubé est avec nous autres. On parle un petit peu de dossiers d'actualité.
Yes.
Moi, j'ai été flabbergasté aujourd'hui de voir Pierre Fitzgibbon. Tu sais, je le sais que c'est pas un individu que les Québécois apprécient. Le gars a quand même réussi en affaires. Mm-hmm. Il est capable de gérer très, très bien ses affaires. Malheureusement, il semble pas être capable de gérer nos affaires. Et de dire que Hydro-Québec ainsi que les politiciens ont été pris de court en regardant le manque d'électricité qu'on a là en 2024. Tu sais, pris de court, là, c'est-tu la nouvelle phrase pour dire incompétence?
Mais là, Yannick, tu comprends pas. Là, ça, les Québécois, il faut qu'ils portent le lave-vaisselle à 2h du matin, là, puis ils n'ont plus l'électricité. Là.
Parce qu'on se demandait c'était quoi cette maladie-là qui est arrivée depuis un an, deux ans, de dire aux gens « Hey, cessez de consommer de l'électricité, cessez de consommer de l'électricité. » Moi, chez nous, puis j'en ai parlé hier avec mes collaborateurs dans Marceau le midi, tu sais, quand les pièces sont pas occupées, quand mes enfants sont pas là la semaine, mes gars sont là du vendredi au lundi, bien lundi soir, moi, je baisse les calorifères à 16 degrés, puis quand ils reviennent, je remonte ça à 20-22. Tout dépendait de leur confort, mais je dépense pas de l'énergie pour rien.
Ah non, puis c'est vraiment multifactoriel, cette histoire-là, parce que premièrement...
C'est de tout le temps nous rendre coupables de tout. Je me dis, mais ça vient d'où? Puis finalement, Fitz dit, on a été pris de court avec Hydro-Québec.
Disons que j'ai l'impression, puis regarde, ça c'est transpartisan, c'est peu importe les partis au pouvoir. Au Québec, en tout cas dans le monde politico-médiatique au Québec, blâmer le monde, c'est tellement facile. Puis je trouve tellement que c'est rendu un réflexe sérieusement qui m'achale.
Ben pendant la pandémie, c'était que ça.
Oui, puis même, mais je te dirais que même avant, là, peut-être que c'est davantage d'aujourd'hui dans les dernières années, mais tu sais, je me rappelle d'avoir vu ça aussi sur Couillard, puis sous Marois aussi, puis même un peu quand j'étais plus jeune sous le gouvernement Charest. Mais c'était moins présent. Là, tu as absolument raison sur le fait qu'on dirait que c'est rendu de plus en plus le réflexe automatique au lieu de poser la question « Ouais, finalement... prenons un peu de recul et voyons la situation avec voyons le casse-tête avec tous les morceaux si possible. Premièrement, Pierre Fitzgibbon, personnellement, c'est pas juste moi, Daniel et Frank, puis moi aussi, on a un peu une relation amour-haine avec ce gars-là. Parce qu'autant que d'un côté économique, ce gars-là, faut y enlever le chéquier. Là, il donne de l'argent à des contribuables à des compagnies comme on le voit aujourd'hui avec Taiga, puis peu importe, dans des compagnies Lyon Électrique qui a été des flops monumentales.
C'est des fiascos, exact.
T'sais, un peu comme sans vouloir. Autant que je suis un gars de Montmagny d'origine, puis la Pocatière, je connaissais avec Bombardier, mais t'sais, Bombardier, le 1 milliard US de Couillard, n'en reste plus bien. Hein? C'est ce que j'appelle personnellement le trou noir québécois. T'sais, on veut pas... C'est ce qu'on appelle en philosophie le sunk cost fallacy. Oui. Ben, le toit du stade olympique, c'est ça. C'est qu'on a mis tellement d'argent dedans, on veut pas se permettre d'arrêter. Là, on est rendu trop loin. Pis, oui, il faut arrêter à un moment donné.
La MIL Davy, là, c'est plus ou moins vrai depuis que ça a été racheté, puis c'est bien géré actuellement. Mais la MIL Davy, je pense qu'on a mis 2 milliards là-dedans.
Absolument. Puis l'autre côté de Fitzgibbon, la pile ou face qu'on aime, c'est qu'il y a un côté vraiment nonchalant, que des fois, il dit sa manière de penser, puis les médias n'aiment pas tant ça.
Veut être comme ça à 70 ans. Là.
Oui, mais on s'entend que ce gars-là, il a des moments de fortune.
Il est droit comme un chêne. Il mesure 2 mètres. Il a 70 ans. Il est indépendant de fortune. Il en a rien à foutre.
Il y a du fun. Il y a un côté nonchalant envers les médias que personnellement, j'apprécie, puisque des fois, il lui remet à leur place, et avec raison, puis là-dessus, je l'apprécie. Pour ce qui est des finances publiques, une autre histoire. Pour la raison, pour la question de l'affaire de la sobriété énergétique, moi, je me dis, OK. Premièrement, donnez-vous l'exemple, le gouvernement, parce que je ne veux pas nommer d'autres animateurs, d'autres radios, mais disons qu'on a vu plusieurs vidéos et photos de buildings de la région de Québec de fonctionnaires qui sont allumés quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
T'sais, il peut y avoir des raisons stratégiques à ça. Ils peuvent faire le ménage, mais à peu, là, ils peuvent pas faire le ménage pendant 13, 14 heures.
Non, c'est le building au grand complet qui est allumé le soir à 3 heures du matin, puis ça dépense du cash, là, puis justement de l'énergie. Fait commencer à donner l'exemple. Deuxièmement, OK, au Québec, on a justement profité, depuis Robert Bourassa, la baie James, puis les grands barrages et tout ça, notre époque de grands bâtisseurs. OK, je comprends, il y a eu quelques barrages qui ont été continués de construire au cours des années 2000, mais on dirait qu'on s'est comme assis sur nos lauriers.
Ouais.
On a comme profité de, oui, notre avantage, c'est une fierté, puis c'est absolument vrai au Québec. Là, hey, on a notre propre électricité qui est 100% écologique, c'est super, c'est abordable, let's go. Puis c'était ça la promesse de Jean Lesage à l'époque, c'est justement qu'on crée un monopole public, mais même si c'est nous qui... Oui, c'est le gouvernement qui va la gérer, mais en bout de ligne, ça va vous coûter moins cher qu'ailleurs. Puis c'était ça le dream pour que les gens embarquaient, puis ils ont embarqué. Okay. Mais là, on dirait que pendant tout ce temps-là, on s'est dit après un bout de temps, on a ça, pas besoin d'en faire d'autres. Puis on s'est assis sur nos lauriers, puis on s'est levé un matin un peu comme le cigale puis la fourmi, puis on n'a plus de courant.
On a été pris de court.
Ben c'est ça. Puis après ça, on se dit, c'est la faute à qui? C'est-tu la faute des gouvernements ou certains anciens PDG, PDGE d'Hydro-Québec qui nous ont dit, puis là, je veux paraphraser ici, parce que je ne me rappelle plus de la citation complète, l'ancienne madame de Gaz Métro, que le nom m'échappe complètement, là, qui disait que, en tout cas, la prédécesseur de Michael Sabia, qui disait que, en gros, je paraphrase ici, que le
mandat... Brochu.
Oui, madame Brochu. Sophie Brochu, je pense, ça se peut-tu?
Ouais.
Qu'elle disait justement que le mandat d'Hydro-Québec, c'est pas de faire plus d'électricité, c'est de lutter contre la crise climatique. Une affaire comme ça, là, tu te dis, ah, oh, tabarouette. Tu sais, mon but, c'est pas de nier. Je nie pas les changements climatiques, je nie pas qu'on a un problème relié à ça, mais tabarouette, ta job, c'est de mettre du courant puis que ton réseau soit solide puis qu'on ait le moins de panne possible. Si ton but premier, c'est ça, puis tu le fais pas ou tu l'ignores, sois pas surpris si tu manques de courant à un moment donné. Puis après ça, viens pas blâmer le monde qui consomme trop. Non, t'as pas fait ta job, va la faire. Après ça, si jamais vous auriez la job était top-notch, puis on aurait fait autant de barrages qu'avant, puis on aurait mis les communautés autochtones là-dedans, après ça, on s'aurait dit, malgré tout, on n'arrive pas, les gens consomment trop, voici les chiffres. OK, fair enough, on peut discuter de ça. Parce que votre job, vous l'avez fait, mais là, vous l'avez pas fait. Vous êtes assis sur vos deux mains, après ça, vous blâmez le monde parce que vous avez pas fait votre job. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
On a tous trouvé ça particulier que Pierre Fitzgibbon dise on a été pris de court concernant l'électricité. Peut-être qu'on aurait dû faire les choses différemment avant, mais il a délesté un peu ses affaires en disant ben c'est comme ça ailleurs aussi dans le monde.
Les gens ont été
pris de court. Mais je veux juste terminer mon point sur pour ce qui est de Pierre Fitzgibbon. Tu sais, nous mettre constamment ça sur le dos pour montrer à quel point la CAQ n'a pas su planifier. Puis je vais être très honnête, là, Joey, c'est pas juste la CAQ. Tu as eu les libéraux qui ont été là pendant plusieurs années. Tu as été le PQ qui ont été là. Ils ont même fermé Gentilly.
Astaire, ils regrettent. Il y a eu des articles dans les derniers mois. On devrait rouvrir Gentilly. En Europe, c'est ça qu'ils font.
Ouais. Puis je jasais avec des gens qui sont très à l'affût de la politique, qui sont très, très, très à gauche. Ils nous disaient non, hey, c'est dangereux le nucléaire. C'est des gens qui sont pas à jour.
Tchernobyl a beaucoup marqué plusieurs générations, et avec raison. Malheureusement, on n'est plus du tout... Ben, heureusement, je veux dire, on n'est plus du tout là au niveau des technologies.
Je te pose la question à toi, Joey. Il y a combien de réacteurs nucléaires au Canada?
Au Canada? Ouais,
la dernière fois que tu as entendu parler d'un réacteur nucléaire au Canada, ça date de combien d'années?
Ça fait un bout, mais pourtant, le Canada était renommé mondialement il y a quelques décennies. On avait nos propres réacteurs d'un modèle que je pense que ça finissait par Cannes, mais je ne suis pas un expert de ça du tout. Mais c'était un modèle vraiment, genre le réacteur de ce modèle-là qui était fait au Canada, parce qu'on avait le Canada était une grosse réserve d'uranium, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup en Ontario.
Ouais.
Je ne vais pas me tromper.
Il y en aurait combien, mettons, de réacteurs? Là,
je sais que c'est
de centrales nucléaires.
Je dirais une trentaine. Je lance un chiffre.
Le vrai chiffre, c'est 20, puis on n'entend jamais parler. Puis aujourd'hui, en 2024, les technologies sont tellement rendues incroyables pour ce qui est du nucléaire que c'est rendu la façon la plus propre de faire de l'électricité. Malheureusement, si on amène ça ici au Québec, puis c'est pour ça que je disais, je jasais avec des gens qui étaient très à gauche puis très à l'affût de la politique, ils veulent jamais rien savoir du nucléaire. Ils ont peur de ça. Mais t'as peur, là... Tu te souviens de ce qu'il y a eu à Lac-Mégantic?
Ah ouais.
Hein, tu sais, le pétrole, tu trouves-tu ça plus sécuritaire de le transporter par train ou t'aimerais mieux l'avoir en gazoduc ou ça aussi, c'est le moyen le plus sécuritaire de se promener?
Puis même les éoliennes, on parle souvent parce que c'est ça, c'est comme l'énergie verte à poster boy, on pourrait dire ça un peu, c'est avec le solaire, bien évidemment. Mais d'un, l'éolien, c'est pas que... Parce que tu sais... L'erreur qu'on fait souvent, j'ai l'impression, c'est qu'on met trop, pépé, c'est que c'est une leçon qu'on attend qu'on apprend quand on est ticu, tu sais, pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Tu sais, l'éolien, comme le solaire, comme la géothermie, tu sais, l'hôpital de Montmagny aussi, que c'est mon coin, l'électricité, ça va faire géothermie. On a mis les centrales géothermiques en arrière de l'hôpital.
Formidable.
Mais c'est des énergies vraiment complémentaires. Tu peux pas renier 100% de ton énergie là-dessus. L'éolien, premièrement, c'est intermittent. Deuxièmement, il y a une pollution visuelle qui est là. Deuxièmement, les turbines à l'intérieur de ça, il faut les changer aux 20 ans. C'est rempli de terres rares qui sont très pollueuses. Puis on le voit au niveau des droits humains en Afrique, des mines de cobalt, c'est pas très chic-chic. Puis bien souvent, les composants qui sont pas dégradables des éoliennes, il y a plusieurs documentaires qui en ont parlé, il faut les enfouir. Mm. On peut même pas les recycler.
Mais les gens sont pas à l'affût des nouvelles technologies. Puis ils préfèrent avoir des trains qui transportent du pétrole, ils préfèrent avoir des bateaux qui transportent du pétrole plutôt qu'un gazoduc qui est hyper sécuritaire.
Mm.
Ils veulent rien savoir de ça. Après ça, ouais, ça nous prendrait peut-être des barrages, mais des barrages, tu sais, il faut négocier avec les Amérindiens, les Premières Nations. Eux autres, ils considèrent la rivière comme leur sœur ou encore leur mère. Ouais, ouais, OK. Ben, après ça, les éoliennes, ouais, on pourrait peut-être passer des ententes avec des producteurs privés. Ouais, mais là, eux autres, ils vont voir les agriculteurs. Là, les agriculteurs disent ouais, c'est pas mal plus rentable pour moi d'avoir des éoliennes sur mon terrain que de faire de l'agriculture. C'est 35 000 par mois la redevance pour chaque éolienne. Fait que tu comprends l'agriculteur de dire regarde, moi, fuck les carottes. Là. Posez-moi des poteaux de ciment.
Ben c'est ça, puis la raison pour que la Gaspésie en est un des grands centres, mais pour être bien franc, c'était l'époque du gouvernement Couillard. La raison pour laquelle ils ont créé cette industrie-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de pression de la part des gens, des maires, des élus locaux de la place pour créer une industrie, parce que justement, l'industrie de
la
pêche.
Des jobs.
C'est ça, des jobs, parce que l'industrie de la pêche allait moins bien, puis on sait bien qu'en Gaspésie, disons qu'on a su qu'est-ce qui arrivait à Murdochville, fait que c'est pas un grand succès pour l'industrie d'inter. Fait qu'on va partir l'éolienne. Mais il y a eu, à l'époque où c'est que Michel Morin faisait encore des reportages et expliquait à quel point que les éoliennes, on l'a créée à perte. Ça avait pas d'allure. Mais c'est capoté. Je ne veux pas faire de la politique partisane, mais le PCQ avait fait, il y a au-dessus d'un an, en mars 2023, avait fait un colloque sur l'énergie à Montréal. J'y ai participé. Et l'affaire qu'on ne sait pas, c'est qu'Hydro-Québec, eux autres, c'est un peu comme Elvis Gratton, c'est uniquement des think big. Là. C'est vraiment des méga projets, mais tous des mini barrages de 5, 10, 30 kWh. Ils veulent rien savoir.
Exactement. Alors comme on a aux chutes de la Chaudière. Il y a un petit barrage qui est juste là. Il fournit, je pense, quelques milliers de résidences. Mais quand est-ce que tu n'entends parler, ce petit barrage-là?
Ben c'est ça, parce qu'Hydro-Québec, puis avec raison, quand ils ont été faits dans les années 60, ils ont commencé vraiment avec les grosses artères. Là, la Grande, justement, là, le barrage Johnson et compagnie, ils ont vraiment commencé avec les plus gros afflux d'eau pour avoir la plus grande quantité d'énergie. Fair enough, tout à fait logique. Mais là, de ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il reste encore peut-être un ou deux, peut-être même trois projets de grande envergure, mais le reste, c'est vraiment des petits, des moyens projets. Mais Hydro-Québec ne veut rien savoir là-dessus. Puis oui, il y a les communautés autochtones là-dedans, mais il y a plein de projets qui pourraient être justement mis en lien avec les communautés autochtones de la place pour faire leur mini-barrage. Comme disait ma grand-mère, bien, c'est avec des scènes que tu fais des pièces. Fait qu'à un moment donné, il va falloir embarquer là-dedans.
Puis le nucléaire, tu sais, je ne pense pas que ça va être accepté de la part de la population au Québec en raison de la désinformation à propos du nucléaire.
Mais je trouve
ça triste.
Oui, absolument. Mais je sens que le vent commence à tourner de cette industrie-là. Tu sais, on le voit au niveau de la France et le Québec. On n'arrête pas tout le temps de dire que la France fait de quoi trois semaines après le Québec copie l'idée, là. À tort ou à raison d'ailleurs. Mais tu sais, Macron a fermé la centrale de Fessenheim. Il y a beaucoup qui ont critiqué ça durant la dernière présidentielle. Là, ils se rendent compte qu'avec le Nord Stream pipeline que la Russie a fermé pour l'Europe puis l'Allemagne, ils se disent finalement le nucléaire, on n'est pas fou. On devrait peut-être repartir ça. Hein. Fait que l'autonomie énergétique est absolument essentielle, mais je pense que de plus en plus, on voit que justement le désastre de Tchernobyl commence à être pas mal en arrière de nous autres, puis je pense que les nouvelles générations, puis on le voit que les nouvelles technologies qui sont pas du tout la même chose. Puis écoutez, si vous avez écouté la merveilleuse mini-série Tchernobyl sur Netflix, vous savez à quel point que oui, il y avait des problèmes. C'était beaucoup de la mauvaise gestion que créait ce problème-là. Tu sais, oui, il y a eu de la mauvaise technologie au travers via le communisme russe, mais c'était pas la technologie en elle-même qui a lâché. C'est vraiment une mauvaise gestion puis une suralimentation qui a créé ce désastre-là.
Mais tu sais, il y en a des milliers, même des dizaines de milliers de réacteurs nucléaires.
Absolument.
À la grandeur de la planète, on n'entend jamais parler. Puis juste d'apprendre ça aux jeunes la semaine passée, quand je leur ai dit « Ouais, mais ça existe déjà au Canada, le réacteur nucléaire. On a à peu près une vingtaine qui sont en fonction. Quand est-ce que vous n'entendez parler? » Écoute, ils m'ont regardé avec des beaux grands yeux en disant « Eh, tabarouette, on savait même plus que ça existait, le nucléaire au Canada. » Eux autres, quand le PQ a pris une décision de faire fermé Gentilly, c'était fini le nucléaire, alors que, je répète, là, encore à ce jour, c'est la façon la plus propre de produire de l'électricité, puis ça pourrait nous sortir du trouble. Il y a quelques années, Joey, j'avais parlé avec un technicien, un électricien, on était sur l'île des Sœurs. Puis là, je disais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'sais, quand on va rouler 100% électrique avec les véhicules, il m'a dit, Yann, ça n'arrivera jamais. Non, regarde les buildings ici. T'as-tu déjà été sur l'île des Sœurs? C'est condos à n'en plus finir.
Ah ouais, c'est...
Des stationnements à n'en plus finir. Il dit, il va falloir tout changer le système électrique. Ça va péter. Puis c'est pas vrai qu'on va avoir des bornes de recharge pour tout le monde. Donc, techniquement, la personne à 2h du matin va devoir se réveiller, aller changer sa voiture de place pour qu'une autre personne puisse mettre sa voiture là pour recharger en électricité. Et Diane, ça n'arrivera pas. Pourquoi un électricien qui a son second 5, puis après ça, il y a son cours professionnel. Pourquoi lui, c'est ça? Mais le politicien qui me dit 2035, juste des véhicules électriques, non, lui, c'est pas ça.
C'est pas, il sait, mais c'est purement idéologique. Là. C'est purement pour la bien-pensance, puis c'est ça, pour ce qui est de la crise climatique. C'est dommage parce que la question de l'environnement est vraiment importante. Le problème, c'est que c'est tellement politisé, et je dirais même à tendance très religieux et sectaire par moment, que je trouve ça très dommage parce qu'on est vraiment, on sort du débat réaliste, puis on se fait traiter de climato-sceptique ou whatever. Tu sais, pour. Puis Puis ça revient à mon point sur mettre toutes les œufs dans le même panier, tu sais. Puis pas prendre en compte la situation du Québec. Parce que, OK, on prend des petits pays, tu sais, comme le Danemark ou le Liechtenstein ou whatever, tu sais, qui ont beaucoup de population, mais qui sont très toutes resserrées ensemble densité. En termes de géographie. Parce qu'on est responsable de notre géographie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Puis quand t'as beaucoup de population, mais t'es dans une petite géographie, ben justement, le transport en commun électrique, les chars électriques, t'as pas besoin de faire 36 millions de millages, le territoire est pas tant grand. Mais au Québec, moi, dire comme Bilbon, on est comme du beurre étiré sur une tartine trop grande. Là, tu sais, à un moment donné, on est vraiment territorial au Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi. Vous pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir justement un tracteur ou un char électrique en plein milieu du mois de février, de ce chemin des Laurentides, puis non, une batterie de rechange, c'est pas comme un bidon d'essence, tu pourras pas avoir ça dans ton char, ça va peser en termes de lourdeur sur le char extrêmement lourd, puis c'est pas malléable. Je pense que utiliser diverses sources énergétiques, incluant l'électrique, au lieu du tout électrique, c'est essentiel. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, le principe de vouloir tout changer du jour au lendemain sans faire une période d'adaptation, il me semble que les religions l'ont appris il y a précisément 2000 ans. Pourquoi tu penses que le Panthéon à Rome, que je t'allais visiter avant la pandémie, j'étais content, j'ai pu le voir avant que la crise pète, j'étais pas au courant dans ce temps-là, le Panthéon, qui est considéré comme la plus vieille église catholique de Rome, mais c'est anciennement un temple païen. Pourquoi c'est devenu une église catholique? Parce qu'ils étaient pas fous. Ils se sont dit que si on change une religion pour une autre du jour au lendemain, en changeant toutes les méthodes puis les rituels, le monde n'embarquera pas, ça va être trop différent pour eux autres. Pourquoi penses-tu que le jour de la naissance du Christ, c'est le 25 décembre, parce que c'est le jour aussi la fête païenne du soleil invisible. Fait que en mélangeant certaines pratiques avec d'autres, c'est le même que t'embarques les gens. Fait que pour ce qui est pour la question énergétique, moi, pourquoi, au lieu de faire passer du tout à gaz, à essence, au tout électrique, pourquoi pas focusser sur l'hybride? Pourquoi pas focusser sur davantage, et il parle de plus en plus, du fameux carburant zéro émission? En gros, ce serait de l'essence, comme on a, qui fonctionnerait dans tous les véhicules qu'on a.
C'est ça qui est utilisé en F1?
Peut-être, mais en tout cas, c'est pas encore... Je connais pas assez le sujet pour ce qui est de la F1, mais c'est pas encore pour tout le monde.
En course automobile, je sais qu'ils ont déjà proposé un genre de carburant qui était zéro émission.
C'est ça, c'est qu'en gros, ça serait de l'essence, mais qui ferait aucun gaz carbonique puis aucune émission de gaz à effet de serre. Ouais, c'est ça le but principal pour qu'on fait toutes ces maudites politiques-là de pas polluer.
Allez-y.
Fait que ça éviterait justement aux gens de s'acheter une nouvelle voiture, de créer des bornes, de demander davantage d'électricité pour ce qui est de notre réseau électrique. Go for it! Lave-le la solution parfaite. Non, c'est le tout électrique, c'est l'éolien, c'est le solaire, le gaz, c'est va des rétro satanas. Tabarouette, si vous n'êtes pas capable de comprendre ouais. que l'innovation technologique va nous sortir de cette crise-là, c'est pas avec l'aveuglement idéologique.
Puis, Joey, on en apprend beaucoup en parlant aux gens qui sont en théâtre de guerre. Tu sais, je te parlais justement du gouvernement qui disait 2035, c'est fini les véhicules à essence à vendre au Québec. Canada embarqué dans la danse, bien entendu. Puis en jasant avec un électricien, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de crise de bon sens. tu sais, puis je me disais, mais pourquoi les politiciens ne parlent pas aux gens qui sont des spécialistes de l'électricité? Ils sauraient le dire, tu sais. Mais malheureusement, les politiciens, c'est idéologique, comme tu l'as dit. Donc,
c'est une question d'image.
Il y a ça. Quand on nous parle d'intempéries en raison des changements climatiques et tout ça, c'est la raison pour laquelle il y avait de multiples pannes sur le réseau depuis des mois et des mois et des mois. Moi, quand je parle aux gens qui sont directement impliqués en théâtre de guerre, ils disent « Yann, le retard sur les lagages, on est quasiment 10 ans en retard. On a oublié d'élaguer convenablement nos lignes d'hydro. » Mais pourtant, les politiciens disent « Ah, ben c'est les changements climatiques. Hein? »
Alors, fais-tu rire? J'ai vu deux articles superposés quelques jours sur Twitter. L'année passée, à la même période, on faisait des articles de Radio-Canada. « Ah, les changements climatiques affectent la saison des sucres. Ça n'a pas de bon sens. Des durs moments pour les années à venir. » Cette année, quelques jours.
Record.
T'sais, parce qu'à un moment donné, mon but, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est qu'à un moment donné... Que ce soit les ouragans, que ce soit les feux de forêt, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez que ce soit les changements climatiques, vous pouvez pas mettre ça absolument... Tu sais, c'est impossible que tout et absolument tout soit les changements climatiques.
Il faut pas oublier de vivre au travers.
Aussi, tu sais, des inondations en Beauce vous confirment qu'il y a 100 ans, il y en avait.
Exact.
Puis tout d'un coup, absolument tout dans les médias, qu'on nous parle de catastrophes naturelles, puis là, sans vouloir faire du coq à l'âne, mais tu sais, les tremblements de terre qu'on a à Taïwan les derniers jours, j'ai pas vu de nouvelles, mais je te prie à dégager un 5$ sur la table aujourd'hui, mon Yann, que c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle qui va marquer que ça va être la faute des changements climatiques.
Ouais. On joue beaucoup avec notre tête, puis je trouve ça dommage parfois que certains journalistes décident d'embarquer là-dedans, tu sais. Puis je pense que c'est en fin de semaine, je l'ai diffusé sur mes réseaux sociaux, je pense que vous autres aussi, vous avez diffusé ces deux personnes-là. Cas type, là, un homme de 62-63 ans qui est à retraite, qui a habitent dans un très petit appartement. En fait, ils habitent dans une chambre avec dans la même pièce son lit, un petit sofa, une place, une petite bibliothèque, son four, puis sa brosse à dents à côté du four. Et on a présenté cet individu-là comme un citoyen modèle. Je le connais pas personnellement.
Moi non plus.
Mais moi, je ne veux pas finir à 60 ans dans un 1,5 à côté du four. Puis, tu sais, je veux pas être assis sur mon sofa puis être capable de flusher ma toilette. Tu comprends? C'est, je veux quelque chose de plus grand, de plus convenable, puis je veux avoir une belle qualité de vie, puis je veux surtout pas être dans un logement subventionné, alors que cet homme-là, qui nous était présenté comme le nouveau héros qui va sauver le climat, il était dans un logement subventionné. Là. Il dépendait de l'État pour survivre.
Ben oui.
Et on me dit par la suite, bon, qu'il y avait peut-être... c'était peut-être un comédien aussi. Ça, je l'ai pas vu de mes yeux vus, mais on m'a dit que c'était peut-être un comédien. Puis... le gars, il est sur deux tables de concertation pour l'environnement aussi.
C'est comme l'humoriste qui va sur le podcast du premier ministre pour dire que ça prend plus d'investissement en culture, puis tu te rends compte que le gars, il est sur le CA d'Investissement Québec.
Mais tout ce beau monde-là couche ensemble, mais de me dire à moi, en tant que citoyen, qui a toujours voulu améliorer sa qualité de vie, puis avoir une belle qualité de vie pour mes enfants, qu'à 60 ans... mon objectif devrait être de finir dans un 1,5 pour pas coûter trop cher d'électricité. À très peu, il y a toujours bien des limites. Puis de l'autre côté, cette dame-là, en Beauce, écoute, je souhaite qu'elle nous entende pas, là, mais elle habite avec son mari. Elle est autour de 70-80 ans. Elle fait une vidange pour la récupération. Elle va chercher du linge dans des friperies. On n'est pas trop sûr de quelle façon elle se nourrit. Elle n'achète pas de meubles, puis on nous parle d'elle comme étant une citoyenne modèle. Attends un peu, là.
Moi, ah non, ça
je me sens coupable, moi, d'acheter un lit pour mes enfants.
Sérieusement, honte aux médias de Québécois d'avoir fait ça, parce que sérieusement, c'est faire une glorification de la misère humaine et de la pauvreté. Puis je blâme aucunement ces monsieur, madame-là qui ont été présentés dans les médias. Au contraire, c'est plate parce qu'ils vont se faire rire d'eux autres par la population alors qu'ils ne méritent pas ça. Tu sais, on m'a dit comme ça fait longtemps, mais Richard Martineau parlait de l'époque où c'est que Philippe Couillard parlait de 75 pièces d'épicerie, puis il disait, écoutez, il dit, on parle souvent des sans-abri à Montréal ou ailleurs. Il dit, moi, tu connais... Autant que oui, il y en a qui l'ont peut-être mérité, mais tu connais pas la vie de ces gens-là, puis il faut pas les juger.
Ben
parce
non,
que tu sais pas ce qu'ils ont vécu. Puis personnellement, je ne jugerai aucunement ces gens-là, mais voir ça comme un genre de projet de société qu'il faudrait quasiment que le gouvernement nous gère partout, puis finir d'une maison louée, quasiment subventionnée, puis que...
Délabrée.
Ouais. Ça n'a aucun saint bon sens. Puis sérieusement, c'est mettre ces gens-là sur des piédestals qui, je dirais pas qu'ils l'ont pas mérité, mais qui ne méritent pas d'être là, parce que justement, c'est pas glorifiant pour eux ni pour les gens de voir ça.
C'est le monsieur à 62 ans qui travaille plus et abandonné. Là.
Et c'est tout ça l'objectif.
Moi, je veux pas abandonner à 62
c'est
ans.
C'est ça. C'est tout l'objectif qu'on veut en tant que société. T'sais, on parle souvent de l'équité intergénérationnelle, à quel point les jeunes, autant d'un côté, moi, j'embarque pas là-dedans, que tu sais, qu'ils voient pas un avenir parce qu'ils pensent que c'est ça, la planète n'existera plus puis qu'on fera plus d'enfants, whatever, à cause de la crise climatique. Mais d'un autre côté, on montre-tu à ces gens-là que le seul avenir que vous avez, c'est finir de même? Ça n'a aucun saint bon sens. Puis c'est encore là, c'est OK, pour on fait de la sobriété, pour faire notre part pour la société, puis encore là, relié à la crise climatique et tout ça. Écoutez, moi, j'ai fait un... Parce que je fais du contenu exclusif pour les abonnés Patreon de Yann et Frank, puis je fais des genres de bulletins de nouvelles semi-humoristiques. À un moment donné, j'étais assez sérieux. Tu sais, le fameux, quand on parle souvent de pollution par capita. Tu sais, on dit souvent que, ah oui, oui, la Chine sont 1 milliard d'individus, mais vous devez comprendre, au Québec, on pollue plus par capita qu'un Chinois.
Ça, c'est de la merde.
Sérieusement, là, c'est de la bullshit, ce comme système de métrique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, OK, premièrement, tu, à moins que tu émigres dans un autre pays, tu choisis pas dans le pays auquel tu nais. Tu nais, t'es le produit de tes parents, tu peux naître en Algérie, en Chine, au Québec, whatever. La seule décision prise, c'est jamais tu émigres dans un autre pays par après. OK, fair enough. Ça veut dire qu'un Chinois, que lui, il a pas décidé de naître en Chine, mais il est là, vu que lui, il est chanceux, il est dans une nation de plus 1 milliard d'habitants, lui, il peut se permettre d'avoir un char, de manger des burgers ou des pad thai ou whatever, en masse, parce que lui, en termes de ratio, ils sont tellement nombreux, par capita, il pollue moins. Mais le Québécois, lui, vu qu'ils sont juste 8 millions, mais il vit dans une société moderne, pas chanceux, va falloir qu'il achète même pas une maison, va falloir qu'il soit en transport en commun, qu'il achète un demi-jumelé, puis qu'il mange des produits biologiques jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je dirais, cet argument-là, c'est comme dire, parce que plus la nation est petite, plus il faudrait qu'ils virent en mode quasiment Nouvelle-France, quasiment 2.0. Là. Moi, je disais, l'exemple que je donnais, c'est que ça veut dire que des petites nations développées, comme le Liechtenstein ou le petit pays d'Andorre qui est entre la France et l'Allemagne, qui sont genre 50 000 habitants dans ces petites nations-là, mais sont quand même modernes.
On en parle jamais d'Andorre.
Absolument. Mais ça veut dire qu'eux autres, en termes de ratio par capita, il faudrait quasiment qu'ils vivent comme dans Seul et tout nu jusqu'à la fin de leur jour, parce que eux sont juste 50 000, mais sont technologiquement évolués et ils polluent. Donc, eux autres, il faudrait quasiment jamais qu'ils mangent de viande de l'uvier, encore moins avoir un char. Faudrait quasiment qu'ils habitent dans des huttes en peau, parce que, oublie ça, l'environnement, ça n'a pas de bon sens. Ah non, sérieusement, c'est de la... Puis mon but, c'est pas de dire, on devrait rien faire pour l'environnement. C'est pas ça. Hey, en termes des 60 États et provinces, on est les number one en termes de...
Au Canada, oui.
Au Canada, États-Unis.
Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on est les numéro un. On est les meilleurs, en fait. C'est nous qui en émettons le moins par personne.
Absolument. Puis, incluant les États américains aussi. Regarde, on n'a aucune production pétrolière ou gazière sur notre sol. Ça, c'est un autre débat. Là-dessus, j'aimerais ça qu'on starte un peu pour juste être autosuffisant puis se mettre du cash dans nos poches. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, le genre de discours qu'une certaine gauche amène, qui est très américanisé, que, OK, le Québec est en Amérique du Nord, le Québec est pollué. Les États-Unis sont en Amérique du Nord, donc le Québec et les États-Unis, donc le Québec est polluant. Non, ça n'a rien à voir. Regardez ce qu'on fait. Regardez notre réseau électrique, regardez comment on recycle, comment on fait du compost, comment tout ce qu'on... À un moment donné, le genre de souffre-douleur que c'est tout le temps de notre faute, à un moment donné, regardez notre constat de tout ce qu'on fait pour l'environnement puis ce qu'on fait pour les autres aussi. T'sais, on n'est pas l'Alabama, on n'est pas le Mississippi non plus. Là.
Puis on ne contrôlera jamais le climat, là. Encore une chance, ils réussiraient à scraper tout. Mais tu sais, l'histoire de la sobriété énergétique, je pense que je l'ai compris. Là. C'est vraiment qu'Hydro-Québec, ainsi que les politiciens, peu importe les partis qui sont passés dans les dernières années, ont fait un manque de planification.
Ah, absolument.
Puis là, aujourd'hui, on l'a d'en face, puis on accuse les individus de trop consommer, alors qu'on est dans un pays nordique, puis quand il fait fret dehors, on a besoin de chauffer en dedans. Puis en plus, c'est de, tu sais, d'entendre les différents discours, tant au municipal, au provincial ou au fédéral, ces gens-là s'entendent pas. T'sais. Ils veulent juste qu'on... Ils veulent tout qu'on dépende de l'électricité, mais quand ça pète, on fait quoi? Hey, ouais, mais attends peu, il y a des gens qui ont de la misère à respirer. Il y a une plateforme là, où on a fait certaines lectures. Il y a des gens qui ont de la misère à respirer. Fait que les poêles à bois, là, vous autres, là, non, ah ouais? Ça sera pas de poêles à bois. Faut dépendre de l'électricité filaire, puis faut rester avec ça. Puis s'il y en a pas, ben il y en a pas. Sèche.
C'est très québécois, malheureusement, de plus guérir au lieu de prévenir. Là. On l'a vu avec la pandémie, que le système de santé, ça nous a sauté d'en face. Écoutez, ça a pris le suicide de Marjorie Raymond il y a une quinzaine d'années pour se rendre compte que l'intimidation, c'est un problème réel à l'école. Ça a pris qu'un viaduc tombe à Montréal pour se rendre compte que nos infrastructures, il fallait checker. Ça a pris que, justement, un train déraille à Mégantic pour se rendre compte que notre système ferroviaire, c'était peut-être pas le meilleur. C'est plate à dire, puis je veux pas que ça prenne justement des décès pour qu'enfin, ça a pris la petite fille de Granby pour se rendre compte que les systèmes de la DPJ, c'était pas nécessairement les tops non plus.
Mais ça, il y a une raison à ça. C'est une raison, puis les médias, on est responsable de ça. Je travaille dans un média, je sais un peu comment ça fonctionne. T'sais. Les politiciens, c'est pas mal plus vendeur pour eux autres de réparer un problème que d'en prévenir un. S'ils font une conférence de presse pour dire « Bon, ben on offre, je sais pas moi, 10 millions pour aller à telle place », ils feront pas le tour du Québec. Mais si quelqu'un a été intimidé à l'école, puis on arrive, puis on pleure à la télé, puis on dit « Moi, j'ai de la peine en tant que politicien d'entendre ça, ça aurait pu être notre fille, ça aurait pu être votre fille, je donne 10 millions pour la prévention de l'intimidation », ça va faire le tour du Québec.
Mais encore là, c'est tout le temps l'éternel réflexe, tout le temps, garocher du cash sur le problème comme si elle l'aurait toujours réglé. T'sais.
Mais c'est parce que c'est payant pour eux médiatiquement.
Ouais, mais pas pour nous autres. C'est non, ça le problème.
Non, c'est ça. Mais eux autres, ils vont penser à eux et à leur
surtout partie. Que c'est notre cash en plus, ça serait de l'argent de leur poche. Je dirais, ben, tu fais ce que tu veux ton cash, là, mais c'est ça.
T'sais. Exact. Fait que l'histoire de la sobriété énergétique, c'est pas mal plus une histoire d'incompétence. Mm. Quand en fait, tu nous dis on a été pris de court, incapable de planifier. C'est drôle pour ses avoirs, par exemple, il est capable de planifier. Oui. Mais pour ce qui est de nos avoirs, quand lui les détient, il est pas capable de planifier. Hey, je parlais avec toi du Club Med. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle passer aujourd'hui. C'est quelque chose de banal pour toi et moi. Là. Je ne pense pas que tu portes une grande attention à ça, mais certaines personnes se plaignent à l'Office de la langue française comme quoi ils ne sont pas capables de se faire répondre en français au Club Med. Techniquement, on ne serait pas... couvrir ça, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, mais tout l'argent qu'on a mis là-dedans, puis de m'apercevoir que c'est même pas des Québécois qui travaillent là en majorité, c'est des Mexicains. Ça me met en sacrament, là. Tu sais, c'est une compagnie chinoise qui est venue investir, qui a installé le Club Med, qui ont bénéficié de subventions de notre part. Puis ils nous ont dit, oui, mais on va créer de bons emplois dans le secteur de Charlevoix.
De qualité, ben oui.
Puis là, tu te rends compte que c'est tous des Mexicains qui montent. T'sais, moi, j'adore les Mexicains. Je suis content qu'ils soient là. Je suis content qu'ils soient dans nos champs. Mais je n'ai pas donné 30 % de la valeur de l'investissement qu'eux ont mis. Je ne l'ai pas donné pour ça. Moi, je voulais qu'il y ait des bonnes jobs. Ça représente à peu près 40 millions de mémoires qu'on a donné. Je voulais qu'il y ait des bonnes jobs aux gens de chez nous. Puis si les Mexicains se pointent ici puis ils deviennent Québécois par la suite, garde grand bien leur face. Mais actuellement, les gens au Club Med se font répondre en espagnol puis en anglais.
Ben, je pense que c'est
sont chez nous.
Autant que je ne suis pas expert du dossier, mais je pense que c'est une lacune vraiment au sein de la francisation sur le milieu de travail. Parce qu'on le voit, puis moi, je l'ai vécu durant la dernière campagne électorale de 2022 provinciale. J'étais beaucoup en bosse avec le candidat du PCQ, Jonathan Poulain. Beaucoup d'usines et d'entreprises nous expliquaient justement que la meilleure façon de franciser les nouveaux arrivants, mettons qu'ils viennent du Mexique ou de Philippines ou whatever, c'est vraiment sur le plancher, dans les milieux de travail. Pour les enfants et la famille qui suit, c'est une autre histoire. C'est au niveau du système scolaire, c'est au niveau de ça. Mais pour vraiment ceux qui ramènent, entre guillemets, le cash pour, puis ceux qui viennent travailler ici, la meilleure manière, c'est sur le marché du travail. Fait que s'ils viennent juste d'arriver, ils sont juste deux semaines au Québec, à un moment donné, il faut être indulgent. Là. Écoutez, moi, j'habite à Val-Valère, puis c'est de plus en plus, ils sont beaucoup améliorés. Mais sans vouloir faire de pub, mais le McDonald's à Val-Belair,
c'est majoritairement... Bonjour!
C'est ça, c'est majoritairement des gens qui viennent des Philippines, puis ils ont appris leur français très vite, puis ils sont super, regarde, ils sont pas encore parfaits, mais sérieusement, ils se forcent, puis tu vois qu'ils s'essayent, puis regarde, quand tu vois la simple volonté de vouloir parler en français, bien, c'est ça, il faut quand même le comprendre
mais,
aussi.
Mais de notre côté, Joey, moi, si c'était pas de l'investissement qu'on a mis dans le Club Med, je dirais pas un estifi de mots.
Non, c'est ça.
McDo, ça m'appartient pas.
Absolument.
C'est une entreprise privée, ils prennent leurs décisions, puis moi, j'adore que les Mexicains qui soient au McDo Val-Belair, on fréquente le même McDonald's, on a ça en commun. J'adore qu'il soit là. Je veux dire, samedi matin, c'était un bonheur de me faire répondre « Bonjour, comment allez-vous? Votre commande? » J'adore ça. Mais là, le Club Med, on m'a vendu ça comme quoi c'était vraiment hot, que ça venait chez nous, qu'on allait avoir de bons emplois, bien rémunérés. Finalement, c'est Mexicain à côté, un job autour de 20$ de l'heure, c'est pas ça qu'on nous avait vendu, mais pourtant, ils ont reçu notre subvention, par exemple.
Ah, absolument. Puis c'est spécial parce que c'est Claire Samson qui nous l'avait avoué il y a quelques années, là, l'ancienne députée de la CAQ qui avait switché avec Éric Duhem. Puis elle avait beaucoup fait elle a fait le rapport Samson sur la francisation des immigrants. Puis elle avait expliqué que parce que le fédéral nous donne de l'argent pour franciser les immigrants dans différents programmes. Puis je pense, je vais pas me tromper, mais ça jouait entre 10 et 20% de l'argent que le fédéral nous envoie. On parle de plusieurs centaines de millions que le provincial se sert pour réellement faire de la francisation. Fait qu'il y a quasiment seulement le 1/5 de l'argent que le fédéral nous envoie pour franciser. On s'en sert même pas pour franciser. De toute façon, on se plaint, mais là, l'immigration massée, capacité d'intégration, ben commencez donc par faire votre job. Après ça, on verra si ça marche, ça marche pas. Je dis pas que c'est multifactoriel, c'est pas le seul facteur que si ça marche, tout va marcher. Mais que, tu sais, à un moment donné, c'est souvent ça, c'est qu'on prend... Parce que c'est un peu notre bonne volonté. T'sais, on prend pour acquis que le gouvernement fait toute sa job à toutes les places, qui fait que tout l'argent qui est investi, qu'on y envoie, est mis aux bons endroits. Mais malheureusement, c'est pas souvent ça. Mm. la bonne vieille joke, c'est que si le gouvernement gérait le désert du Sahara, il trouverait un moyen de manquer de sable. Fait que c'est un peu ça. Là.
Dernier sujet avant la pause, Joey Aubé, qui est de Génération Ambition, puis qui est co-animateur aussi du podcast Yann et Frank. La pertinence du Bloc québécois, j'ai de la difficulté à me l'expliquer, surtout avec les derniers moves du chef du Bloc québécois.
Yves-François Blanchet.
Je me dis, attends un peu, là, il est supposé de faire valoir les intérêts du Québec à travers le Canada, mais de l'autre côté, il est en place pour garder le gouvernement actuel en place. C'est gênant.
Écoute, parce que le Bloc a eu une pertinence à un moment donné, puis c'est ça, disons que Lucien Bouchard a une place assez grande dans mon cœur comme étant le dernier homme d'État que le Québec a reconnu. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes politiques, c'est pas la même chose. Mm. En termes de ce qu'on voit, on pense à la prochaine élection, lui, de la prochaine génération. Mais non, je suis le Bloc de plus en plus. En fait, j'ai pas le choix parce que Frank Pian... en fait, Yves-François Blanchet, c'est le bloqueur en chef parce qu'il bloque quasiment le trois quarts de la planète sur Twitter, pour ceux qui le suivent. J'étais un des rares que je sais pas trop de le titiller parce que avec ma job dans le podcast, je suis le seul qui peut encore voir ses tweets pour ne pas en parler.
On me dit que si quelqu'un retweet en mettant ton nom dans le retweet, il va te bloquer aussi.
Oh ouais, puis on a connu nos auditeurs qui sont également, puisqu'on n'a pas juste des fédéralistes, on a des gens qui sont souverainistes dans nos auditeurs à Yann et Frank, puis ils ont juste posé une simple question légitime, puis ils l'ont bloqué tout de suite, il dit, voyons, non, il doit vraiment
être un sensible. Yves-François Blanchette, c'est un pleutre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés avec les gens qui ne pensent pas comme lui. Puis c'est un gars qui s'est assuré d'une bonne job pour quelques années, mais c'est pas quelqu'un qui devrait être là. C'est un gérant d'artiste, là.
Ça rappelle un certain maire d'une certaine ville de capitale nationale. Mais non, mais pour revenir au Bloc québécois, écoutez, je vais être franc, j'ai déjà voté Bloc. Pas tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé.
Ouais, ça fait deux défauts que t'as, là.
C'était à l'époque de... C'était qui? C'était-tu? Ah, c'était l'élection d'Erin O'Toole.
Ouais,
j'avais voté conservateur Scheer, dans le temps de Scheer, j'avais voté Bloc et Erin O'Toole parce que je trouvais que c'était trop middle of the road, assis entre deux chaises, puis le gars m'impressionnait pas trop, puis je pense que ça prenait un petit choc électrique pour le Parti conservateur, puis ils l'ont eu avec Pierre Poilievre, puis je le suis, je vais voter conservateur.
T'avais voté CAQ dans le temps, puis t'avais voté Bloc québécois.
Ouais. On fait toutes des erreurs dans la vie.
Je pense que les auditeurs vont me le dire. Là. Qu'est-ce que tu fais avec Joey Hoppe chez vous? Là?
Qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, ma première élection que j'ai eue, c'était en 2012, je crois, à mes 18 ans. J'avais voté Parti libéral du Québec. Pas parce que je détestais Jean Charest.
Ouais,
parce que,
Jean Charest!
Parce que mon député local, c'est Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, Montmagny-Lillet, que c'était un gars qu'on connaissait beaucoup dans notre famille, puis c'était un bon député local, sérieusement. On votait plus pour le gars que pour le parti. Là. Le gars aurait été péquiste, on aurait voté pour lui. Là. C'était pas ça le point.
Mais la pertinence du Bloc comprends plus.
C'est ça, pour venir au Bloc, le... OK. Le Bloc, je comprends. Là, je comprends l'intérêt historique à moi pour nos affaires que vous savez peut-être pas. Je suis ouvertement souverainiste. Peut-être pas de la même manière que les souverainistes classiques à la PSPP ou Parti québécois Bloc le pensent. Moi, je pense plus que la souveraineté va venir si justement on décentralise l'État puis on devient une plateforme économique. Puis les number one provinces au Canada, puis selon moi, le jour où c'est qu'on va voir le reste du Canada comme un bras mort, ben l'idée de la souveraineté va venir d'elle-même, parce qu'on va se dire, on est capable de gérer nous-mêmes, let's go, on tire la plug. Aussi simple que ça, c'est pas même que je vois la même affaire, mais quand même. Mais le Bloc, je vous dirais que là, il y a eu un graphique récemment qui est passé sur les réseaux sociaux, ils ont pris comme toutes les majorités des votes des dernières années sur différents projets de loi, puis à part le Parti conservateur du Canada, la majorité des partis, que ce soit le Libéraux, Bloc et NPD, c'était pas mal une... pas quasi corrélation, mais c'était majoritairement pas mal les mêmes votes aux mêmes endroits. Il faut pas se le cacher, regarde, j'ai des amis au Bloc québécois, j'ai des contacts là, je m'implique pas personnellement, à part ça, je m'implique au provincial, mais je m'implique aucunement au fédéral. Je m'informe de ce qui se passe au fédéral, je vote au fédéral, mais je m'implique pas au fédéral. Je trouve ça un peu trop plate, personnellement. C'est pas... En fait, c'est le côté binaire que j'aime pas. Il y a une partie libéraux, partie conservateur tout le temps, puis on est moins des enjeux sur le plancher des vaches. Mais le Bloc...
T'es ouvertement gay, mais t'aimes pas les binaires. OK, je comprends.
Bon, les gens vont sortir la cote, ils vont mettre sur Twitter. Hein, le gay homophobe, on l'a découvert. Oh mon Dieu.
Ben, c'est comme Éric Duhem, à un moment donné, on a vu passer ça. C'était sur Twitter. Il y a des gens qui l'avaient qualifié le roi des homophobes.
Ben ouais.
Le gars, il est chef du Parti conservateur, il est ouvertement gay. Il en a rien à foutre des gens qui disent qu'il est homophobe. Il l'est pas pantoute.
Ah non, c'est comme il y avait un acteur américain, pas un acteur, mais un politicien américain noir conservateur en Californie, puis le LA Times l'avait nommé « The Blackface of White Supremacy ». Tu dis « Tabarouette, on commence à aller loin ». Mais c'est ça. Le Bloc, faut pas se le cacher, c'est un parti, même si François Blanchet dit qu'ils sont de centre, c'est un parti clairement à gauche.
Ben
oui. C'est social-démocrate, comme le Parti québécois, c'est pour ça qu'il y a une affinité entre les deux. Les militants s'impliquent aux deux partis, c'est correct. Mais quand ils disent défendre les intérêts du Québec, c'est défendre, c'est pas à dire, les intérêts du Québec qui sont majoritairement très étatistes, très statu quo, très grand État toujours là. Tu sais, je vois François Blanchet qui blâme le Parti libéral. Hey, c'est un État centralisateur. Vous voulez la même affaire qu'eux autres, là? Tu sais, vous promenez les mêmes trucs, autant au niveau de l'environnement que le reste. Le meilleur exemple récemment, c'est son plus gros mensonge à vie, qui continue de pousser, d'ailleurs, là, sur la taxe carbone, là. Ah, mais pourquoi on va... Tu sais, la taxe carbone, c'est pas un vrai enjeu, puis ça s'applique pas au Québec. Je comprends. Sur papier, la politique ne s'applique pas au Québec. Mais on vit pas... T'sais, c'est un peu spécial, hein? Parce que quand il y a eu l'inflation qui est arrivée, whatever, là, on nous disait que c'était à faute de la guerre en Ukraine. On nous disait que c'était à faute des chaînes d'approvisionnement, des affaires qui se passent à des milliers de kilomètres de chez nous. Ça nous affecte, mais une taxe sur l'essence, le pétrole, le gaz naturel dans toutes les autres provinces canadiennes, sauf nous autres, ça nous affecterait pas. Ça, c'est sûr, ça nous affecte pas. C'est les provinces à côté, voyons. Non, c'est pas comme si on aurait des accords commerciaux avec eux autres ou l'Ontario est notre principal...
C'est comme si on n'importait rien.
Ben, c'est ça. On vit pas... Sans vouloir prendre un thème d'une autre station de radio, on vit pas dans un dôme, tu sais.
Le
fameux dôme, là, tu sais. Ben non, on a des échanges. Puis d'ailleurs, je salue Jacinthe Évarel qui avait répondu au tweet de Yves-François Blanchet, qui a pas été bloqué par lui. J'assume que son statut radio-canadien la protège un peu là-dedans, qui avait sorti les graphiques, que ce soit avec l'Alberta, l'Ontario, les autres provinces canadiennes, que ce soit dans le pétrole, dans la viande de bovin, des minéraux précieux, on échange beaucoup. Penses-tu vraiment que le trucker, le camionneur québécois, dans mon coin, l'entreprise Gilmire de Montmagny, s'en va, mettons, en Alberta, puis s'est dit non, je vais attendre à retourner au Québec avant de me tanker, puisque la taxe carbone, ça peut être là-bas. Mais non, cibole.
Non, c'est du grand n'importe quoi.
Ça nous affecte indirectement, peut-être pas autant que si on l'aurait. Ben, on l'a, techniquement, à cause qu'on a notre marché du carbone qui est purement québécois, qu'on fait avec la Californie, mais ça nous affecte quasiment en double aussi. Fait que nous dire que ça affecte pas le Québec.
Mais c'est un manque d'éducation. Puis de l'autre part, je pense que François Blanchette sait pertinemment ce que.
Oh, il sait absolument.
Jacinthe Arel, c'est quoi son
Jacinthe
nom?
Avarel.
Jacinthe Avarel mentionne, c'est juste qu'ils veulent juste vendre leur propre poutine sans nécessairement.
C'est purement électoraliste.
Informer le monde.
Tu sais, on parle de. On est dans un Québec, faut pas se le cacher, qui est de plus en plus vieillissant. Oui. La génération boomer, puis on sait très bien que ceux qui posent davantage le message nationaliste, plus souverainiste, péquiste, c'est majoritairement, bien sûr, le Parti québécois, le Bloc québécois, et bien sûr, les médias de Québécois, comme TVA Nouvelle, majoritairement. Fait qu'il se. C'est plate, mais il se fie sur l'ignorance d'une certaine génération et de son électorat vis-à-vis cette question-là pour se faire réélire. Mais quand tu regardes ce qui se passe, parce que tu peux dire que la taxe carbone, ça nous touche pas. Ben, il y a eu un vote récemment, je sais pas si c'est sur la taxe carbone ou pour bloquer ou restreindre la taxe carbone pour les provinces de l'Ouest comme le Manitoba, parce qu'il y avait une demande de ça pour ce qui est du gaz naturel. Et le Bloc, qui ne touche absolument pas cette politique-là, aurait pu dire on s'abstient, ça nous touche pas. Mais on décide de voter contre pareil parce qu'il s'est dit ah, ben là, faire ça, c'est contre l'environnement, donc c'est contre le Québec. À part te mettre les autres provinces canadiennes à dos, qu'est-ce que ça te donne de
absolument
faire ça?
Rien.
Puis tu peux dire oh, mais on s'en sac du Canada, les anglophones, on est pour les Québécois, pour le Québec. Ouais, mais je veux dire, c'est avec des alliances que t'amènes tes points. François Legault, là, qui s'en va tout seul comme un petit pion fagnon avec Justin Trudeau, puis qui demande tous les pouvoirs en immigration, puis Justin Trudeau refuse. Qu'est-ce que tu penses qui allait arriver? T'as pas voulu t'allier avec Daniel Smith ou les autres, Scott Moe de la Saskatchewan pour dire, regarde, je vais vous appuyer sur la taxe carbone, de l'autre bord, vous m'appuyez pour l'immigration. Parfait, donnant. Ce qui me faisait penser, j'en parle dans un de mes podcasts, il ressemblait un peu à Charlton Heston dans Moïse et les 10 commandements. Là, il arrive devant le pharaon, let my people go. Puis le pharaon, il dit non. Ben, ça finit de même. Qu'est-ce que je te dis?
That's it. Hey, Joey, garde-toi du gaz parce que je dois faire une courte pause. Il nous reste encore un 5 à 10 minutes ensemble tout de suite après la pause. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Joey Aubé, qui est de Génération Ambition. Il était aussi co-animateur du podcast Yann et Frank, que vous pouvez consulter. Vous pouvez même ajouter Joey sur les réseaux sociaux. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Joey Aubé, qui est de Génération Ambition. Il est aussi co-animateur du podcast Yann et Frank. On a parlé de plein de sujets depuis le début de l'émission. Puis là, je pense que pour ce qui est du Bloc québécois, on peut rayer le sujet parce que je sentais que tu étais sur le point de te fâcher.
Oui, ben, si je peux terminer rapidement là-dessus, c'est que c'est majoritairement...
Alors, c'était terminé!
Non, ben terminé.
Oui, vas-y.
Petite minute finale, peut-être pas. Là. Je sais que j'ai une grande gueule, mais j'essaie de me tenir un petit peu pareil. Ouais. Mais... c'est souvent, parce que tu sais, c'est pas à dire, mais ce que le Bloc nous propose majoritairement parlant, c'est beaucoup de la... c'est pas à dire, puis autant je comprends, tu sais, je la connais mon histoire du Québec, je suis pas innocent, j'ai pas une confiance aveugle dans le système fédéral canadien, c'est pas ça du tout, mais c'est souvent des maudits arguments symboliques, tu sais, en nous autres, au lieu d'envoyer des Québécois pro-Canada à Ottawa, on envoie des Québécois pro-Québec aux communes, des affaires de même, tu sais, sans ça la langue française, puis de ci, de ça, mais le problème, c'est que ça serait ça, mais sur les questions économiques aussi, ils se positionneraient pour défendre le Québec, je dirais OK, le problème, c'est que c'est uniquement la langue, uniquement l'immigration, puis le reste, l'économie, l'argent du monde, ils s'en contrefous. Même bien sûr qu'autrement, ils embarquent dans les politiques du gouvernement fédéral et du NPD dans ce qui appauvrit les gens, comme la taxe carbone et quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, j'embarque pas dans le Bloc. C'est se recentrer, puis devenir plus centre-droit au fil du temps. On s'en jasera. Je pense pas que c'est un parti qui est 100% perdu, parce que c'est uniquement une question de leadership. Écoute, je connais des jeunes qui sont dans l'aile jeunesse du Bloc québécois, ils sont pas tous ultra à gauche comme lui. Ouais.
Je vais te poser une question cruelle. Si François Blanchette n'est pas chef du parti. Du Bloc québécois, il fait quoi?
Il retourne gérer Éric Lapointe, peut-être?
Es-tu capable de le gérer? Tu sais?
Bonne question.
T'sais, on se pose toute la question, mais je me suis posé cette question-là. Si ce gars-là n'est pas chef du Bloc, il fait quoi? La réponse, c'est qu'il redevient le gars qui était.
Il travaille dans une OBNL.
C'est pas un gestionnaire.
C'est ça. Ben, c'est un ancien ministre péquiste sur Marois, je crois bien, là, pendant le peu de temps que le gouvernement était là. Fait qu'il y a une certaine notoriété au sein du mouvement souverainiste. Mais non, puis autant que Mon but, c'est pas de vraiment bâcher plus sur le bas, parce que les libéraux, je les aime pas plus. Puis la NPD, je trouve vraiment que c'est rendu une caricaturale fédérale.
Il faut être honnête. T'sais, je veux dire, oh, absolument. Le bloc, moi, je veux dire, ce qu'ils ont fait dans les derniers jours, c'est épouvantable. C'est ça, parce que Trudeau, complètement inacceptable.
Trudeau, je l'aime pas plus, mais au moins, autant que c'est vrai que c'est pas un méchant exemple, mais au moins, il essaye de vouloir galvaniser ça pour que ça paraisse bien un peu. Mais on dirait que François Blanchet, il se gêne même pas pour essayer, mettons, de vouloir dire, d'essayer de nous avaler un mensonge avec une pilule de placebo. Lui, c'est comme, voici, je vous dis un pur mensonge, mais vous dites que c'est la vérité. Hein, c'est le fun.
Ouais. C'est une budget fédéral, ça va être quoi, le déficit?
Ben, on annoncerait, selon les chiffres, là, autour de 50 milliards de dollars.
Y a-t-il encore des gens qui vont voter fédéral aux prochaines élections? Qui vont voter libéral aux prochaines élections?
Oh oui, le West Island.
50 milliards!
Le West Island de Montréal, présent depuis 150 ans, rouge éternel.
Tu sais, t'as un déficit structurel qui est là, qui est en place depuis des années avec les libéraux. Puis là, on est rendu à 50 milliards de déficit. Puis on continue d'injecter de l'argent puis de donner de l'argent ailleurs. C'est hallucinant. On termine avec ça. C'est un de tes dossiers que tu voulais aborder, le Centre de prévention de la radicalisation. Pourquoi tu voulais nous parler de ça?
Ben, en fait, c'est un peu un addon, parce que vous savez, depuis plusieurs années, peut-être même une décennie, on parle souvent, même des fonds, on les amène comme intervenants, tout le monde en parle pour prouver nos points. Il y a un centre, je pense que c'est à Montréal, c'est le Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence, ou quelque chose comme ça, qui parle majoritairement des gens, on a entendu parler d'eux autres quand il y avait eu l'attentat de la mosquée à Québec, ou quand il y a des attentats pour ce qui est relié à des groupes plus radicaux, d'extrême droite, ou peu importe. Mais j'ai toujours pensé que quand on les aimait dans les médias, on parlait uniquement des groupes dits d'extrême droite, c'est la meute ou whatever à l'époque, mais jamais on parle des groupes d'extrême gauche. Puis je me dis, mon but, c'est pas de vouloir pointer du doigt ou galvaniser quelqu'un qui ne sont pas d'une étiquette, mais je me dis, de l'extrême, il y en a des deux bords.
Mais bien souvent, dans ces organisations-là, il y a un bunch d'extrême gauche qui est bien mis en place.
Il y a eu, puis ça, c'est une autre affaire, mais tu sais, on parle souvent des fact-checkers, tu sais, puis il y a eu des graphiques dans les derniers mois qui prouvaient que finalement, l'allégeance politique des fact-checkers sont majoritairement plus gauche et très à gauche que centre ou centre-droit, là. Mais c'est ça, fait que je tombais là-dessus, c'est l'algorithme de YouTube qui m'a fait tomber ça. C'est un vieux reportage de JA 2017 qui parlait de l'extrême droite au Québec. Tu sais, la meute, Atalante, Sons of Odin, on se rappelle de ça, là. Puis des affaires comme ça, puis je vous disais qu'il jouait tout ça pour le fun. Puis il parlait justement
de les soldats d'Odin.
Le soldat d'Odin, en fait, en anglais, Soldier of Odin, soldat d'Odin en français. Et il parlait, c'est ça, il parlait de le directeur de l'époque, directeur général du Centre de la radicalisation, qui est publié à ça, c'est rendu une femme qui avait demandé est-ce que la meute est un organisme d'extrême droite. Elle dit oui, absolument. Absolument, ça, je réfléchis même pas du tout, c'est absolument vrai. Mon but, c'est pas de dire que c'est pas vrai, c'est vrai que c'est une gang de crinqués, là. Puis j'embarque pas du tout avec leurs idées d'ethno-nationalisme ou d'anti-musulmans ou quoi que ce soit.
Au début, honnêtement, quand ils ont parti le mouvement, c'était pas si pire, mais malheureusement, il y a des radicaux qui sont arrivés, puis ça a dérapé.
Ça a dérapé, ça, absolument. Mais là, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me dis, attends une seconde, là. Le Novo Info, qui est rendu à Québec, qui est rendu un nouveau média de plus en plus.
Un nouveau média de gauche.
Un nouveau média de base. Sont pas si pires, sérieusement.
Non, c'est rafraîchissant. C'est un média de gauche. Il n'y a rien de plus rafraîchissant que ça.
Et ben, c'est comme... C'est du hit and miss, je te dirais. Il y a du bon monde là-dedans, puis ils ont moins de budget, mais on dirait que, ben, justement, faut que je leur donne à César ce qui est à César, parce que si ça n'aurait pas été d'eux autres, d'ailleurs, Radio-Canada n'aurait pas parlé, puis on n'aurait jamais su parler. Parce qu'il y a quelques, à peu près, environ un mois et quelques, il y a eu un rassemblement de communistes à Montréal, plus de 600, majoritairement des jeunes, qui ont fondé un nouveau parti politique au Québec, qui est le Parti communiste révolutionnaire. Vous allez dire, voyons, Joey, tu me dis, non, je vous jure, c'est vrai. Et ça a passé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu des intervenants, des communistes qui naissent de la Grande-Bretagne, de la Suisse, puis tout ça, pour partir ce mouvement-là.
Les grands médias ne semblent pas en avoir parlé, à part Nouveau.
À part, il y a eu un reportage de Nouveau là-dessus, puis je l'ai écouté. Et ça a fait un peu le tour, puis il y avait... justement demandé au directeur scientifique, j'ai aucune idée c'est quoi la différence entre le directeur général et le directeur scientifique du Centre justement de la prévention de la radicalisation, pour demander qu'est-ce que vous pensez de l'avènement, de la création de ce parti communiste dit révolutionnaire, tu sais, qu'on veut renverser le capitalisme, puis de ci, de ça, puis tu dis, puis le gars, qu'est-ce qu'il dit? Là, je paraphrase un peu ici, vous irez voir le montage que j'ai mis sur mon Twitter. Ah, mais ça fait longtemps, il dit, c'est assez dynamique, on pensait pas voir... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, il dit, un parti des rassemblements communistes, il avait l'air d'avoir du fun, lui, là, puis il disait, écoutez, il dit, des gens, il dit qu'ils veulent régler les problèmes de la société de manière plus radicale, et écoutez, on a juste à ouvrir le débat, puis c'est tout à fait sain, c'est pas une menace à la démocratie. Attends une minute, toi, là. Fait que de la meute de l'extrême droite, qui est tout à fait légitime, je comprends, c'est des malades mentales, OK, au niveau, c'est des extrémistes, c'est des radicales, mais t'as le Centre de la radicalisation qui dit qu'une gang de communistes qui crée un parti communiste révolutionnaire...
C'est rafraîchissant.
C'est rafraîchissant, puis c'est démocratique. Voyons, tabarouette. Puis c'est financé par des fonds publics, ce centre-là, je vous le dis tout de suite, là.
Oui.
Fait que d'un côté, mon but, c'est pas de vouloir dire que sont pires que l'autre, whatever. À date, ils ont pas fait d'attentat. Puis j'espère qu'ils en feront pas, bien évidemment. Puis s'ils veulent absolument de le faire de manière démocratique, ben regarde, les gens voteront avec leur botte, avec leur conscience, puis ils feront ce qu'ils veulent. Mon but, c'est pas de les barrer du bulletin de vote. Mais si on s'en va justement dans des manifestations violentes ou quoi que ce soit, puis on les blâme au sein de... dans le futur ou whatever, puis on dit « Ah, c'est le Parti communiste révolutionnaire qui a parti ça », excusez-moi, mais disons que autant qu'on n'a pas affronté les communistes en Deuxième Guerre mondiale, mais disons qu'ils ont tué pas mal plus de monde historiquement que les nazis. Là, je vous le dis tout de suite, là, fait que tu sais, les goulags, puis. Et non, pour ceux qui nous écoutent, non. Pas parce que t'es dans ta chambre d'étudiant en ce moment, parce que toi, t'as pas connu le... non, c'était pas du vrai communiste. Nous autres, on a la vraie solution. Nous autres, ça va être le vrai communiste. On n'est pas des dictateurs, on n'est pas des radicaux.
Ouais, on pourrait leur demander à quel endroit ça fonctionne, le communisme.
Ben, c'est ça l'affaire. Fait que mon but, c'est pas de les canceller. Mon but, c'est pas de dire, gars, faites votre parti extrémiste si vous le voulez, mais un centre dit contre la radicalisation qui voit qu'un parti dit communiste qui se forme avec une certaine ampleur au Québec se crée, puis ils trouvent ça normal, puis ils disent « Oh non, c'est le fun, regardez, c'est nice, c'est dynamique!
Hein? » Ah, c'est très particulier. Joey Aubé, ça a été un plaisir, ça a été un excellent 60 minutes. On a parlé de plusieurs sujets ensemble. Le podcast va être disponible dans les prochaines heures. On peut te rejoindre comment chez Génération Ambition?
En fait, envoyez-moi, vous pouvez... c'est sûr que toute Génération Ambition, on a notre page Facebook, on a notre... par contre, je pense que c'est Ambition Génération sur TikTok parce qu'on a dû changer parce que le libellé était déjà pris. Sinon, sur toute la majorité des réseaux sociaux, on est là. Sinon, si vous voulez m'envoyer un message privé, soit ma page Facebook, Joey Aubé Chroniqueur ou Joey Aubé sur Twitter, si vous voulez rejoindre le mouvement, on a un groupe Messenger privé, on a un serveur Discord pour les gamers qui nous connaissent. On essaie d'être à toutes les plateformes que les jeunes se trouvent. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, feel free. Pour l'instant, on n'a pas encore créé de membership payant, mais ça va venir dans les prochains mois. Donc, si vous voulez rentrer gratis avant que ça vous coûte quelque chose, en joke, mais c'est ça. On essaie vraiment d'avoir on est de plus en plus invités à différents endroits, dans différentes plateformes. Puis le but, c'est vraiment de nous faire connaître de plus en plus. Et justement, à l'avenir, que autant des médias comme toi, autant des grands médias plus traditionnels nous demandent également notre point de vue sur certains enjeux qui touchent les jeunes. Et non pas uniquement certains groupes radicaux plus à gauche qui sont plus campés de l'autre côté, disons-le.
Ça a été un plaisir. Joey Aubé passe une excellente fin de soirée. De
Merci
même
beaucoup.
Qu'aux auditeurs, on se dit à demain, 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là.